C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Lundi 18 octobre, bonne journée, un matin de pluie, assez frais aussi, autour de 8 degrés. Il y aura quelques averses au cours de ce début de journée. Par la suite, c'est assez nuageux. Un petit peu de pluie, mais pas quand même en termes de quantité, quelque chose de très important. Les vents sont modérés. Maximum pour la journée, ça bouge à peine, là, c'est 11 degrés. Alors, ça sent l'automne ce matin. Ce soir et cette nuit, généralement nuageux. Les vents sont légers, minimum de 6. Pour demain, mardi, couvert, 15 degrés. Pour ce qui est de mercredi, c'est du temps ensoleillé autour de 17. Et jeudi, ben là, c'est une vraie journée de pluie. Toute la journée, 20-25 mm. Ça va ressembler à ce qu'on a vu samedi, entre autres, là. Maximum autour de 13 degrés. Alors, je rappelle pour les gens qui viennent tout juste de se joindre à nous que l'opération sauvetage sur le Saint-Laurent continue pour localiser un pompier qui est porté disparu. Et si vous avez entendu Bénédicte, toutes les ressources ont été mises à disposition. Donc, Sûreté du Québec, la Garde côtière, les Forces armées canadiennes, le SPVM et évidemment le Service des incendies de Montréal. Une opération de secours qui a mal tourné. Deux personnes qui étaient en détresse sur un bateau. Et quatre pompiers se sont dirigés pour aller les sauver dans leur embarcation. Ils ont chaviré. On a pu récupérer les deux personnes en détresse, trois pompiers, mais malheureusement, il manque toujours un sapeur. Et il y aura des plongeurs également plus tard aujourd'hui. Et Bénédicte va nous donner tous les détails au cours de l'émission. Maintenant, dans les autres nouvelles ce matin, je vais commencer par vous parler des CPA. La presse nous dit que dans le discours inaugural qui sera présenté demain par le premier ministre François Legault, on va retrouver une annonce qui devrait, pense-t-on, satisfaire les parents qui envoient leurs enfants dans des garderies privées non subventionnées. Quel est l'objectif? Faire en sorte que, par des crédits d'impôt, le prix réel payé par les parents chaque jour se rapproche du prix payé dans les CPE. Puis je vous donne un exemple. Je reçois un courriel justement en fin de semaine de Stéphanie. C'est une mère de trois enfants et son enfant de 2 ans fréquente une garderie non subventionnée. Elle dit « Ça nous coûte à peu près 50 $ par jour pour les mêmes services qu'au CPA. Dans d'autres cas, je sais que c'est même plus cher que ça. J'ai pas le choix, dit-elle. Je dois faire mes cours en virtuel. Mon conjoint travaille. Et parfois même, ça me pousse à m'interroger sur la pertinence de continuer des études puis même aller travailler. Combien y a-t-il de parents qui, comme moi, n'ont pas la chance d'être en CPE à 8,50 $, autant pour les responsables de garderie qui veulent garder leurs employés, qui souhaitent la même augmentation et les mêmes avantages que les éducatrices en CPE? » Et je la comprends, puis j'en prends un exemple, là, mais j'en ai plusieurs comme ça. Alors, paraît-il que le gouvernement va annoncer ça demain, on va voir. Mais ce serait quand même une bonification du crédit d'impôt qui serait confirmée dans le mini-budget du ministre des Finances, Éric Girard. Et là, on est en train d'en discuter. Il semble que c'est le 22 novembre qu'on va présenter les mesures en question. Alors, ça veut dire qu'on a déjà estimé à peu près 200 millions. Mais c'est sûr qu'il y a une forme d'inéquité. Puis t'as beau avoir tous les crédits que tu peux imaginer, si t'as pas une place en CPE, ça va te coûter plus cher pour faire garder tes enfants. Puis là, on repartira pas le débat ce matin sur les places, notamment pour les poupons ou pour des parents. Puis je prends le cas de Stéphanie, là. Ça a été extrêmement difficile de trouver une place. Puis, tu sais, la question qu'on peut se poser fondamentalement, est-ce qu'on a besoin d'autant de modèles au Québec? C'est garderie privée non subventionnée, garderie privée subventionnée, CPE, milieu familial. Je comprends qu'il y a des situations qui, évidemment, peuvent évoluer, mais c'est un foutu capharnaüm, tout ce secteur-là. Puis, en bout de ligne, vous avez des parents qui se retrouvent dans une situation qui n'est pas équitable. Au même moment, bon, ben, il y a des grèves qui continuent. Alors, ce sont les employés syndiqués à la FTQ qui vont débrayer. Comme parents, vous le savez, j'imagine. Donc, les négociations doivent reprendre un peu plus tard cette semaine. Puis depuis la proposition qui a été faite par la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, la semaine dernière, Mais là, vous avez des réactions syndicales. On sait, c'est une augmentation importante qui est proposée. Tout d'un coup, là, on dit, on vous le donne tout de suite, là, le temps d'ajuster le système de paye. Puis pour les personnes qui vont vouloir faire du 40 heures semaine, là, pas s'il y en a beaucoup, mais ça va être encore un peu plus payant, puis il en reste plus à mettre sur la table. Les syndicats n'aiment pas ça. Puis là, les syndicats disent, c'est pas comme ça qu'on doit négocier. Ça ne touche pas les gens qui sont aux cuisines, par exemple, dans les CPE, qui font partie des rouages. C'est important que ces gens-là soient rémunérés correctement. Donc, employés de cuisine et d'autres, là, à l'administration, ou encore à l'entretien ménager. Le Journal de Montréal nous prépare mentalement à une augmentation des tarifs de Hydro-Québec supérieure, peut-être, à ce qu'on a connu depuis les dernières années. Et on parle minimalement, parce que c'est basé aussi sur l'inflation, là, de 2,6%, puis ça pourrait peut-être atteindre 3%. Habituellement, c'est annoncé au début de l'année, là, quelque part au mois de mars. Et on prévoit une augmentation qui pourrait représenter, pour une maison moyenne, là, autour de 60 $ de plus par année. Mais regardez, puis j'insiste là-dessus parce que c'est tellement vrai, l'augmentation globale de vos dépenses, qui sont difficilement compressibles, c'est-à-dire, ou bien chauffer à l'électricité ou s'éclairer, puis ça va coûter plus cher. Même si les tarifs québécois demeurent nettement avantageux par rapport à ce que des Américains payent pour leur énergie. On sait également que le prix de l'essence explose. Regardez encore ce matin, là, 1,57 $, le prix du régulier. Ça, c'est Varennes, par exemple. D'autres endroits, un petit peu moins cher, mais 1,56 $ Sainte-Julie. Donc, vous voyez que vous payez très cher. La facture de l'épicerie, globalement aussi, augmente. On en parlait la semaine dernière. Ça fait énormément, disons, de pression sur les finances. Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui ont quand même des augmentations de salaire, mais c'est pas tout le monde. Puis je regardais ce matin, puis on va y revenir en détail avec le Conseil québécois du commerce au détail. Les ruptures de stock sont devenues régulières. Puis, si vous travaillez dans le domaine pas de la production de biens, si vous êtes dans la vente au détail, vous le savez, il y a des gens qui, c'est pas une caricature, il y a plein de gens qui m'ont écrit encore en fin de semaine là-dessus, qui sont en train de faire leurs achats de Noël en ligne ou dans les magasins. Je vous donnerai des chiffres un peu plus tard. Il y a quand même une pas pire de fréquentation, notamment pour ce qui est des vêtements, là, l'achat en ligne, puis aussi l'alimentation. Mais c'est sûr qu'il y a une pression qui est exercée sur le portefeuille des Québécois. Alors, l'électricité va venir s'ajouter à ça. Déjà qu'on paie, par exemple, pour les services Internet des factures élevées, car les études montrent qu'au Canada, c'est un des endroits dans le monde où c'est le plus cher. Alors, tout ça vient donc s'ajouter à cette pression financière. Puis le coût du logement, j'ai plein de gens qui m'écrivent, pas capable de trouver un logement à un prix convenable. Puis là, quand vous avez 2, 3, 4 enfants, ben c'est inimaginable. Puis en parallèle, campagne électorale à Montréal, ben il y a un paquet d'engagements. Tu dis très bien, mais quelle est la faisabilité de ce qu'on nous annonce? Je parlais de l'habitation, là. Tous les partis politiques dans la course à la mairie, tous les candidats-candidates s'engagent à faciliter l'accès à la propriété. Tu sais, la réalité de Montréal, c'est quoi? C'est que ça coûte très cher, et que les familles quittent Montréal, puis il n'y en a pas beaucoup qui s'en viennent à Montréal. Puis on veut freiner l'étalement urbain, puis on veut augmenter la densité. Je regarde l'engagement de Mme Plante, c'est de bonifier un programme existant, entre autres faire en sorte de rembourser la taxe de bienvenue, qui est une taxe scandaleuse, dont les villes gloutonnes se sont alimentées, s'alimentent encore, au détriment des citoyens. S'il y a une taxe qui est arbitraire, que les administrations municipales laissent aller, sans contrôle, parce que c'est tellement profitable, c'est bien la taxe de bienvenue. Mais t'as beau vouloir jouer avec les critères, puis te donner une coupe de 1 000 de plus à des propriétaires, des jeunes couples, par exemple, mais ça demeure extrêmement dispendieux d'acheter à Montréal. Puis Tu sais, t'as beau vouloir là, présenter le beau discours, la réalité, c'est que les gens vont s'établir ailleurs. Voilà pour ce qui est du secteur de l'immobilier et de la construction de logements. Parlons de la santé. Bon, certain nombre d'éléments ce matin. Un, quand vous regardez le fameux tableau de bord du gouvernement, on est rendu à 90 % de gens pleinement vaccinés au Québec dans la catégorie des 12 ans et plus. Et ça va même jusqu'à 93 % chez les ados. Les ados, ils ont compris une affaire. S'ils veulent faire du sport, s'ils veulent avoir des activités, sortir avec leurs amis, puis ultimement voyager, ben ça prend la double vaccination. Et là où il y a de la résistance, en gros, chez les 25-40 ans, puis tu sais, quand on dit résistance, c'est à 85 %. Disons que c'est moins qu'ailleurs, mais ça, c'est une dose. Et on est à 85 % pour ce qui est, pardon, des deux doses qui ont été administrées. Alors, il ne faut jamais perdre de vue le tableau. On parle beaucoup de la résistance, par exemple, dans le réseau de la santé. Mais c'est clair qu'il y a une solidarité assez exceptionnelle des Québécois. Dans Le Devoir, ce matin, on nous explique que le recrutement d'infirmières à l'étranger, c'est bien beau, mais que si on compte là-dessus pour régler la pénurie, bien, ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce qu'on pense que ça peut aller jusqu'à un an ou deux avant de pouvoir permettre aux infirmières étrangères de venir pratiquer au Québec. Il y a moins de 8 % des infirmières qui présentement travaillent dans le réseau et qui ont été formées à l'extérieur. Là, on veut bien accélérer le processus. On sait que Radio-Canada nous disait la semaine dernière qu'il y a des mandats qui ont été donnés par les CIUSSS et les CIS, mais ça va prendre du temps pour obtenir l'équivalence. On est d'accord qu'il faut vérifier, mais disons que les procédures sont assez longues. Lorsque le dossier est complet, il faut alors de 2 à 3 mois pour son traitement. Il y a un volume de 3 500 personnes qui pourraient donc arriver, puis là, on pense que on n'aura pas nécessairement la capacité de soigner. Et je vous donne un exemple, puisqu'on parle du réseau de la santé. Tu sais, je ne dirais pas l'établissement, mais on se prépare pour la visite de l'agrément. Et l'agrément, donc, c'est une forme d'autorisation. On vient vérifier les bonnes pratiques. On vient voir les protocoles, comment ça se passe dans l'institution. Et au terme de ça, ben, on peut décider de suspendre, de renouveler avec des conditions. Bref, c'est important. Mais tu te dis, est-ce que c'est le moment de faire ça? Dans le centre hospitalier qui nous intéresse, la visite est prévue pour le mois de novembre. Entre-temps, le personnel est mobilisé, des infirmières mais d'autres, là, pour avoir la plus haute note possible au moment de l'évaluation. Formation en ligne accélérée. Les protocoles doivent être changés. On libère des infirmières du plancher pour venir évaluer certaines pratiques au département. Je ne dis pas que c'est inutile, là. Mais tu dis, est-ce que c'est le temps de faire ça? Y a-t-il moyen de repousser ça? Peut-être à plus tard, ça a l'air que non. Puis juste pour finir sur le réseau de la santé, une femme me raconte son histoire. Elle se prépare pour une chirurgie qu'elle attend depuis très longtemps. 15 jours avant la date d'opération, on l'avise. Elle se présente, elle passe le test COVID, elle dort à l'hôpital parce que c'est une opération quand même importante. Elle a besoin d'un déambulateur. On lui dit qu'elle doit, elle ne peut pas être accompagnée par une personne. Elle amène ses valises à l'hôpital. On fait les prises de sang. Elle signe les formulaires de consentement. On étiquette ses effets personnels. Elle attend 3 heures. Et finalement, pas de chirurgie. La raison que son médecin lui donne, c'est que ça a débordé et qu'il n'y a pas de chambre disponible pour la garder suite à l'opération. Elle dit « Je suis fâchée ». Puis peut-être qu'on peut la comprendre dans les circonstances. Rapidement, on va regarder les autres nouvelles ce matin. On va parler un peu plus tard de cette déclaration qui va se répéter à tous les matchs. Et comme Catherine disait, c'est la même chose dans beaucoup d'activités culturelles, c'est-à-dire de venir, avant de commencer un match, déclarer que la partie se déroule sur un territoire non cédé de la part des Mohawks. Et là, je voyais beaucoup d'historiens s'activer en fin de semaine. Parce que c'est pas aussi clair que ça, parce que y a différents points de vue sur la question. Est-ce que c'est un territoire autochtone avant? Évidemment, mais est-ce que ce sont que les Mohawks? D'autres parlent des Algonquins. Alors, l'historien Éric Bédard sera avec nous. Mais là, c'est devenu la tendance, pour toutes sortes de raisons, à chaque fois de souligner, pas par une plaque, pas par un message, une fois, à chaque événement, ce caractère. Puis entre-temps, je ne sais pas si vous jetez un coup d'œil du côté du fédéral, M. Trudeau n'a pas l'air pressé de faire siéger son nouveau gouvernement. La date de retour à la Chambre des communes, c'est le 22 novembre, ce qui est quand même assez loin. Et là, ça a l'air que chez les conservateurs, on pourrait permettre aux députés qui ne veulent pas se faire vacciner, parce qu'il y en a chez les conservateurs, d'être à distance, d'être en Zoom. Et donc, espèce de parlement hybride, nous dit le Globe and Mail ce matin. Et en terminant, un mot sur ce kidnapping en fin de semaine. Donc, il y a 17 personnes, dont un Canadien, des missionnaires, qui se trouvaient dans un orphelinat, qui ont été enlevés. Évidemment, Haïti, qui est toujours, je dirais, le théâtre de confrontation, un pouvoir politique instable, corrompu à bien des égards, des gangs qui prennent le contrôle. Alors, il y avait même donc des enfants qui ont été pris en otage. Il y en a 5, paraît-il, qui demeurent qui sont toujours gardés. On ne sait pas si on les a vraiment localisés. Et Haïti blâme, entre autres, les pays qui aident, comme le Canada, les États-Unis, en disant qu'on ne fait rien pour aider. Et tous les jours, vous avez des infos sur cette violence qui secoue Port-au-Prince, des quartiers de Port-au-Prince et d'autres villes en Haïti. Ça n'a pas de bon sens. Il y a malheureusement souvent ces cibles, présence étrangère en Haïti, qui deviennent automatiquement des choix de première qualité pour les gangs qui veulent intimider, faire peur, puis ramasser de l'argent.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Demain, il y a donc 10 ans, la commission Charbonneau était créée. On se souvient des scandales dans l'industrie de la construction, le financement des partis politiques. 10 ans, ça passe vite. Nos invités ce matin ont été les procureurs, disons, vedettes de la commission. Sonia Lebel a été procureure-chef pendant un bon bout de temps. Elle est avec nous ce matin, aujourd'hui présidente du Conseil du Trésor. Bonjour.
Bonjour.
Et Maître Denis Galland, qui a été procureur en chef adjoint aussi. Denis, bonjour.
Bonjour, Paul.
Comment vous avez appris d'abord la création de la commission, puis comment on vous a approché, puis quel a été votre premier réflexe?
Oh mon Dieu, la première fois, moi, ben, j'ai appris avec, comme tout le monde, le premier mandat, tu te souviendras, Denis, hein, qui était un mandat qui donnait à toute fin pratique peu dedans. On appelait ça le garden party, tu sais, venez nous rencontrer si ça vous plaît. À l'époque, on était ni un ni l'autre dans la commission, c'était à partir du deuxième mandat. J'ai reçu un appel téléphonique un matin de Franck Charbonneau. J'étais dans ma salle de bain en train de me préparer pour aller vers le palais de justice faire mon travail. Et bon, vous avez appris à connaître Mme Charbonneau depuis, tu sais, elle m'a dit, ben écoute, j'aimerais t'offrir de venir comme procureur. On appelait ça simple procureur, ce qui n'est jamais simple non plus là, à l'époque. Et France m'a dit, écoute, prends ton temps, mais ça me prend une réponse dans une heure. Genre.
C'est à peu près.
Toi, Denis?
C'est à peu près ça. Écoute, moi, je suis à ce moment-là, je suis pas dans la Naudière, mais quelque part avec mon bureau. On est comme dans une retraite fermée, un lac à l'épaule qu'on appelle. Puis nos cellulaires ne rentrent pas. Puis on passe 2-3 jours là. J'arrive sur l'autoroute 40, puis là, le téléphone, puis là, j'interroge ma boîte vocale, puis Maître Galland, pouvez-vous me rappeler, c'est Franck Charbonneau. OK, je me disais, qu'est-ce qu'elle me veut? Je pense pas. Oui, elle avait annoncé la commission, mais j'étais pas sûr qu'elle allait me demander d'agir dans cette commission-là. Finalement, j'interroge mon autre boîte vocale, celle du bureau, celle de mon cellulaire, la même chose. Maître Galland, rappelez-moi, là, c'est Mme Charbonneau, je vous ai déjà laissé un message, puis là, c'est là que j'ai catché. Puis là, quand elle m'a appelé, France, elle est comme ça, là, elle était assez spontanée, elle disait, vous imaginez pourquoi je vous appelle? Je pense que oui. Là. Alors, on dit pas non à un mandat comme ça.
Non, effectivement. C'est difficile à passer comme mandat. On prend le temps de réfléchir un peu, mais on se dit que c'est l'occasion d'une vie, là, pour un procureur de la Couronne, surtout. Là.
Quand vous plongez là-dedans, c'était quoi le défi? Là, on prend ça comment?
Ben c'est un peu le défi là. On avait à chaque fois que j'en parle, puis mon souvenir le plus vivant, c'est moi, Denis et Robert Pigeon dans un local temporaire, parce qu'il faut comprendre qu'il a fallu mettre en place aussi les locaux, trouver un endroit pour avoir une salle d'audience puis tout ça. Et on a une feuille 8,5-14 devant nous avec deux paragraphes là. Puis là, on se dit, par quel bout on prend ça, là? Puis on était peu nombreux au début. Avec les commissaires, on était 4, là, je pense, de plus, là, avec les commissaires. Donc, c'est à peu près ça, là. Écoutez, on a, naturellement, spontanément, on est deux procureurs de la Couronne qui avons fait du crime organisé. Bien, le premier bout qui était plus accessible pour nous et plus compréhensif, c'était de voir comment on peut entrer dans l'infiltration du crime organisé, là.
Ben, c'est la même chose que Sonia a dit, c'est-à-dire c'était une commission d'enquête sur les contrats publics dans l'industrie de la construction. Donc, l'industrie de la construction, à part d'avoir donné des travaux chez nous, là, je connaissais pas bien ça.
Non,
puis, c'est la même chose pour les contrats publics. Là. Sonia et moi, on a fait partie de la même équipe là, au bureau de lutte au crime organisé. Donc, ça, on connaissait ça, mais le restant. Donc, il a fallu, Paul, je te dirais, dans les premiers mois, les regarder. Puis, c'est un peu bizarre. Parce que, tu sais, nous autres, comme procureur de la Couronne, on reçoit une enquête policière qui est faite, puis on décide si on porte les accusations, puis après ça, on va faire le procès. Comme si on enquête, là, c'est comme si tu faisais une enquête policière puis un procès en même temps. Oui. C'est assez
bon, mais ça, c'est
le danger, tout ça.
Ouais, parce que pendant les travaux de la commission, il y avait toujours bien l'UPAC qui était là, puis il y avait des enquêtes policières. Comment vous arriviez à gérer ça en disant, si j'appelle tel témoin... Ben là, je peux pas trop l'amener, je peux pas l'amener là, m'ennuyer à l'enquête. Comment ça marche?
Ben, il a fallu faire une grande collaboration avec la Sûreté du Québec à l'époque, l'UPAC et tout ça. Et c'était une collaboration à sens unique, c'est-à-dire que nous, on pouvait pas contaminer les enquêtes policières, donc il fallait recevoir. Mais ça, c'est après un certain temps, quand la commission s'est mise à rouler, que là, on a réussi à avoir accès. Notre première bataille épique devant les tribunaux, c'est avec la GRC pour avoir toute l'enquête colisée, les fameuses images du Cosenza et compagnie. Ça faisait partie d'une enquête de la GRC. Et bon, disons que la collaboration était moins intuitive, là, avec le fédéral déjà à ce moment-là. Donc, ça a été par le biais d'un subpoena qu'on a dû avoir et forcer la divulgation. Mais après ça, il a fallu mettre des protocoles en place parce que, dans le mandat même de la commission, de toute façon, les commissaires avaient comme objectif de ne pas nuire aux enquêtes policières. Donc, c'était pas juste un vœu pieux, c'était une obligation. Puis à partir du moment, il faut que les gens comprennent qu'on entrait avec nos grosses pattes dans les enquêtes policières, on aurait pu ne pas avoir accès si on avait nuit autant soit peu aux enquêtes. Fait qu'on a fait beaucoup de huis clos. Puis 80% des huis clos étaient pour justement protéger les enquêtes en cours.
OK, on va revenir aux modalités. L'impact de la commission Charbonneau, là, quand vous regardez ça avec le recul, 10 ans après... Ça a été quoi?
Écoute, l'impact, c'est de dire, c'est de briser le mur du silence.
Ouais,
c'est de voir les gens publiquement. Moi, je me souviens à l'époque quand on disait, ben regarde, est-ce qu'on a des enquêtes policières ou une commission d'enquête? C'est-à-dire, c'est deux objectifs qui sont totalement différents. C'est-à-dire qu'une enquête policière là, et un procès en tant que tel, les accusés sont incontraignables. Donc, ils risquent d'avoir un procès, mais jamais tu pourras les obliger à parler, à expliquer la situation. Une commission d'enquête, c'est ça. Comme si on enquête, c'est prévu dans la loi, c'est-à-dire que si tu reçois un subpoena et tu es obligé de venir témoigner, te soumettre un interrogatoire, un contre-interrogatoire, puis au bout de la ligne, venir t'expliquer publiquement. À la fin de la journée, ces gens-là, puis c'est pas le rôle d'une commission d'enquête de les envoyer en prison ou obtenir du dédommagement civil. Ça, c'est le rôle des tribunaux, puis ça restera toujours. Puis moi, je dis toujours, sans enquête, sans commission d'enquête, tout ce qu'aujourd'hui on sait, Puis même nous, aux premières loges, là, quand on disait, oh mon Dieu, c'est... Tu sais, je vais faire une petite blague, tu t'en souviens, à l'époque, en premier tout, tu sais qu'on a un mandat qui est hyper large. Où est-ce qu'on s'en va? Oui. Tu sais, je te dirais, Sonia puis moi, on devait faire le crime organisé, mais le crime organisé, c'est quand on est rentré à Montréal... C'est là qu'on s'est aperçu qu'il était là.
On aurait pu rester là pendant des années.
Qu'il y avait de la corruption, de la collusion. Puis on devait passer quelques semaines sur Montréal. Puis je m'en occupais de Montréal. On a passé 7 mois, Paul. Oui.
Mais l'impact, je pense, au-delà de tout ça, Paul, remets-toi à la même place il y a 10 ans, là, puis va poser la question au monde. C'est quoi du contrat public? C'est quoi du financement?
C'est quoi la collusion?
C'est quoi la collusion? C'est quoi la corruption? T'aurais vu, là, je pense, un regard vide là, des gens, alors que maintenant, les gens ont une connaissance et une sensibilité qui est très différente. Puis moi, je pense qu'au-delà de tout ça, juste pour cette sensibilité-là, je pense qu'on a fait quelque chose.
Mais il y a quand même eu un changement aux lois sur le financement
absolument,
des partis politiques. Il y a eu la création du BIG à Montréal, le poste que tu as occupé.
Oui, ça, c'est des impacts
quand même
concret. Mais juste le fait que les gens maintenant en parlent et sont préoccupés et ont une connaissance, je pense que ça déjà c'est un bon impact. Et c'est un des le rôle majeur d'une commission d'enquête, c'est l'éducation aussi là.
Autre question. Le fait que le rapport n'ait pas été unanime, qu'il y a eu une dissidence, est-ce que ça nuit ou, quand vous regardez ça, vous dites, je pense que les conclusions ont quand même passé?
Bien, de point de vue très théorique et technique, ça n'a pas nuit parce que les conclusions ont quand même passé puis ont été mises en place. Mais je pense que ça a quand même fait un atterrissage, je vais le dire raté parce que on a pris souci avec Denis pendant 4 ans, il est commissaire naturellement, mais c'est parce que c'est nous deux qui est là ce matin, à faire en sorte qu'on ait un vol. Bon, un vol parfait, c'est une grande, c'est pas ça, là, mais qu'on ait un vol sans trop d'anicroche, qu'on soit capable. Et c'est sûr que, bon, c'est comme on a pogné une patch de glace en atterrissant. Puis que je pense que malheureusement, puis cette page de dissidence-là, quand on la lit avec du recul, là, elle est tout à fait correcte. Là, elle est tout à fait. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle replace certains faits. Mais sur 1700 pages, les commissaires étaient d'accord. Là. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qui a resté, malheureusement.
Oui, ben c'est ce que moi j'appelle le sideshow. Là. Mmh. C'est ce qui a attiré l'attention. Mais une commission d'enquête, c'est-à-dire qu'à partir de 2012, les lois commencent à changer. T'sais, la commission n'est même pas finie. En 2012,
le
PQ va voter la loi sur l'intégrité. Tu l'as dit tantôt, Big est nommé à Montréal. Il y a un paquet de modifications qui sont faites. Puis quelque chose qu'on oublie très souvent, parce qu'on va parler de la longueur d'une commission d'enquête, mais on va parler également des coûts. La commission a coûté peut-être 40 quelques millions pour 4 ans, mais juste avec la loi qui a été adoptée après ça sur la récupération des sommes, juste dans le programme volontaire, puis je me trompe peut-être pas, mais ils ont récupéré à peu près 100 millions. Oui.
Sans compter que les contrats sur l'île de Québec ont baissé, ont baissé de 30 % pendant la commission. Ça, c'est peut-être plus intangible à calculer, mais il y a eu des impacts. Fait que si on veut avoir une approche totalement comptable, la commission, elle était rentable.
Okay.
Mais
quand vous voyez qu'il y a encore des enquêtes de l'UPAC, là, bon, le projet, évidemment, qui vise l'ancien premier ministre Charest, puis ça fait des années que ça traîne, là. Puis les gens regardent ça et disent, ouais, mais il arrive quoi, là? Pourquoi ça avance pas? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à partir de ça?
C'est parce que c'est extrêmement complexe. Nous, on avait juste, je dis ça comme si c'était simple, mais on avait des stratagèmes à illustrer, mais on n'avait pas trouvé de coupable. Nous, nous autres, c'est le moteur de la machine.
Comment la machine fonctionne
et pas qui la conduit, si je veux faire un parallèle. Alors que les enquêtes criminelles, c'est le moteur, la machine, qui conduit, qui a décidé du moteur, qui sont les ingénieurs derrière. Donc, c'est beaucoup plus difficile et complexe avec un degré de preuve qui est très élevé. Donc, c'est pas le même objectif. Là.
OK. On va revenir un peu aux modalités.
Vas-y.
Toi, t'avais développé la technique de la question de 4 heures. Là. Moi, je suivais ça en direct avant la...
24.
Hein? 4 heures et 24. Oui, c'est bon d'être précis.
Oui, c'est moi qui avait le chronomètre à l'arrière.
OK, ça, c'était pour quoi? Un punch comme dans un épisode de série? C'était quoi l'idée derrière ça?
Bien, l'idée... Écoute, la première fois, c'était peut-être accidentel, mais après ça, on s'est aperçu que l'accident revenait souvent. Là. C'est-à-dire qu'on s'arrangeait, effectivement. On savait qu'il y avait des choses qui était en guillemets crunchy. Puis Sonia et moi, on a fait des procès devant le jury. Tu sais, on sait comment, mettons, là, des fois, tu vois ton jury là, commence à trouver ça plate un peu puis à cogner des clous. Puis là, je disais toujours, ben là, c'est là qu'on va y déposer le kilo de cocaïne, là, qui n'ont jamais vu ça de leur vie. Là. Mm. Donc, c'était à peu près la même chose qu'on faisait quand, mettons, surprenant pris de remords qui avait décidé qu'il nous remettait une partie de l'argent qu'il avait pas blanchi au casino. Là. Donc, et il dit, ben regarde, on va la montrer.
Dans les époques, là, on va vous montrer ça.
On va vous montrer là, c'est quoi de l'argent cash.
Une image vaut mille mots.
Quoi, là, vraiment, là, tu sais, en voulant dire, tu sais, votre hypothèque, là, que ça vous prend 25 ans à payer, vous, monsieur, madame, tout le monde, les payeurs de taxes, bien, regardez, là.
Ça tient dans deux époques, là.
Écoute, c'est parlant, okay. Ça, Paul.
Comment t'as réagi quand monsieur Migliotto te dit, je respecte les gens qui me respectent, si tu me respectes pas,
Moi, j'ai très bien réagi parce que écoute, on s'entend que c'est une pièce d'anthologie.
Ça,
et son absence de témoignage est un témoignage vibrant, là. Parce que on est dans le domaine du crime organisé italien, la loi du silence, l'omerta. Et juste, moi, je revois toujours sa face reculée. Pour moi, c'était comment j'allais réussir à passer sous la carapace. Et je l'ai déjà dit à Franche Charbonneau à l'époque, elle a sauté dans l'arène pour me défendre. Ouais. Mais moi, je trouve qu'elle a coupé mon momentum, là. Parce qu'à partir du moment où il m'a regardé avec un regard où là, tu sais, si tu me fais du bien, je te fais du bien. Si tu me fais du mal, je te fais du mal. Moi, j'avais compris que je venais de rentrer comme le couteau en dessous un petit peu de la carapace. Et dès qu'elle est intervenue, il est retombé dans son silence emmuré. Mais moi, c'était un peu comme Denis le dit. Nous, quand on a puis j'étais habituée à faire des interrogatoires, des contre-interrogatoires de crimes organisés. Donc, l'idée, ces gens-là sont extrêmement confortables, disons-le, dans leurs habitudes de vie. Donc, il fallait le provoquer. Donc, moi, j'ai pas mal réagi, mais...
Avez-vous pensé à faire témoigner Vito Rizzuto?
Ça a été une réflexion.
Ouais. Ça a été une réflexion, mais en même temps, je me disais, ça aurait été pour la galerie, là, parce que qu'est-ce qu'il aurait dit? On avait eu Miliotto.
L'avantage de Miliotto, c'est qu'on avait des images.
Oui.
Puis il faut comprendre, hein, Denis l'a bien dit tantôt, quand on part avec un procès, l'enquête est terminée. On a les photos, on a des perquisitions, on a des choses. Là, on n'avait rien. Miliotto, on avait des images. Rizzuto, on n'avait rien pour le confronter. Imaginez un Rizzuto à la Miliotto, pas d'image jusqu'à Senza. Donc,
Ben oui, si, puis je veux juste rajouter là-dessus, Rizzuto, il était détenu, lui, il a été détenu longtemps aux États-Unis. Et on savait que tout le côté construction, puis on le savait de la part de Lino Zambito, c'est pour ça que je dévoile rien ce matin, là, quand Lino nous disait, c'est le bonhomme, c'est le père, c'est le patriarche. La construction, c'était lui, là. Vito, il était ailleurs, là. Et lui, il était mort également, là, monsieur Nicolò Rizzuto.
Oui, puis nous, on est en train de placer tout ça sur un pattern, c'est-à-dire une toile de fond qu'on avait établie avec, souvent, on l'oublie, là, mais Donnie Brasco, Joe Pistone est venu témoigner, puis lui avait témoigné longtemps aux États-Unis, il a infiltré la mafia, les 5 familles italiennes de New York, et Rizzuto découle d'une de ces 5 familles italiennes-là. Donc, lui, il avait mis vraiment une toile de fond. Donc, ce qu'on était en train de faire avec nos différents témoins pour nous, là, pour le rapport éventuellement, parce que c'est toujours ce qu'on avait en tête, c'est de mettre des pièces de casse-tête, les coller à la toile de fond, puis l'image devenait pour nous évidente. Là, et il fallait arrêter. À un moment donné, quand l'image est évidente, il faut passer à un autre appel.
En terminant, si je vous demande, est-ce qu'à un moment, là, vous dites ça, là, ça a été... Ça peut être une anecdote, ça peut être un moment plus drôle. Moi, je vois tous les témoins passer, là, les Luc Leclerc, les Marcille... Il y en a qui transpirent la longue, qui vient expliquer à peu près toutes les patentes de corruption. Y a-tu un exemple où vous dites celui-là, là, c'est mon souvenir qui illustre ce que ça a été la commission Charbonneau?
9h15 un matin, Denis m'appelle, je te laisse aller.
Oui, 9h15, c'est-à-dire que nous autres, ce qu'on fait, puis Sonia l'a dit tantôt, c'est-à-dire qu'il faut se coordonner avec le DPCP, il faut se coordonner avec les enquêtes, puis notamment, il y avait le dossier Honoré. Honoré, ça a été vraiment là, de la collaboration, parce que tu te souviens, Paul?
Maire de Laval.
À Maire de Laval, puis c'est arrivé pendant la commission, puis nous autres, on avait accès à du matériel, puis il fallait faire attention pour pas brûler les perquisitions, puis tout ça, puis on le savait. Ceci étant dit, il y a un témoin en tant que tel qui est hyper important, et ce matin-là, j'interroge pas, c'était Paul, je pense, qui interrogeait,
oui,
c'était Paul Crépeau qui interrogeait, et j'arrive plus tard au bureau, je me souviens, je suis sur la côte du Beaver Hall, puis 9h15, et je reçois un appel du DPCP, un des grands patrons du DPCP, il me dit, j'ai entendu que tu faisais venir tel témoin ce matin, oui. Est-ce que tu savais qu'il n'avait pas... Il y avait une grosse problématique avec le témoin en termes de crédibilité. Là, tu sais, nous autres, on essayait de plus en plus. Puis là, il dit, tu ne parles plus, Denis. C'est parce que je parle plus. Là, c'est parce qu'en 9h30, il est là, lui, là. Et là, j'arrive, tu te souviens?
Ah, oui.
J'arrive en panique. Là,
là
j'ai
c'est
dit,
trouver le moyen, changer l'ordre des frappeurs. Français, de tirer la plug sur le témoin sans expliquer que le DPCP... doute de sa crédibilité et donc compromettre l'enquête en cours. Écoute, je pense honnêtement, Paul, que ça a été mon premier stab à la politique, à une déclaration genre mi-figue, mi-raisin, qui veut rien dire en voulant tout dire. Là. Et on a pris comme 15 minutes à l'écrire, donc on a suspendu un peu la commission sans dire à personne. Et là, c'est pas juste ça, c'est qu'il faut trouver... Nous, ce témoin-là était prévu probablement pour une journée ou deux. Okay. Ça, c'est la courte version. Ça aurait pu être plus long que ça également. Donc, qu'est-ce qu'on fait aussi? Quel problème prochain témoin, trouve le prochain témoin, quel procureur va l'interroger, parce que nous autres, souvent on préparait la veille le témoin du lendemain, c'est une grande roue qui tournait sans fin. Donc, ça a été ma première déclaration, disons, politique.
Ah, ben, oui. Je t'en plains ça. Puis ça, ben, Sonia, qui était techniquement, elle me disait, regarde, Denis, es-tu capable d'étirer? Alors, je me souviens, c'est là que j'ai fait le notaire de Ville de Laval, qu'on devait peut-être même pas faire. Puis finalement, il fut intéressant. C'est-à-dire, oui. Je pense, on le fait pas, ou si on le fait, écoute, Sonia, ça va être une demi-heure. Je pense que je l'ai gardé deux jours.
Oui, oui. Mais moi, écoute, il y avait le fameux corridor, le long corridor des témoins. Le nombre de fois que je l'ai fait nu-pied en courant pour apparaître dans le cadre de porte de la commission puis dire à Denis, fais du temps. Mais
puis le ça, fameux claquement de doigts.
Oh, mais ça, c'est ma marque de commerce maintenant. Mais disons qu'on aurait de quoi faire encore un 20 minutes sur comment il a pu me mettre, cet individu m'a mis à bout de patience.
On parle de Michel Arsenault.
Absolument, oui. Michel Arsenault.
Président de la FTQ à l'époque.
Exactement. Puis là-dessus, on avait beaucoup d'écoute électronique et moi, je l'avais entendu dans mes oreilles pendant deux semaines. Ouais, quand je l'ai recommencé à entendre sa toune le matin, je pense que j'ai un petit peu perdu les dents. Mais je me suis calmée depuis.
Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous ce matin.
Plaisir, Paul.
Merci.
Sonia Lebel et Denis Galin.
L'essentiel de Paul Arcand.
Beaucoup de gens ont réagi en fin de semaine en constatant que le Canadien de Montréal avait pris une décision, c'est-à-dire à chaque match à domicile, les Canadiens de Montréal vont présenter un message en disant que cette partie, si vous voulez, se joue sur un territoire Mohawk non cédé. On sait qu'il y a beaucoup de ces mots qui sont prononcés avant des événements culturels, des événements sportifs, des réunions de travail. C'est devenu un peu la norme avant de commencer quoi que ce soit de dire « Nous sommes ici sur un territoire autochtone. » Dans ce cas-là, on dit « Mohawk non cédé » et on veut insister. Sauf que j'ai vu passer des commentaires tellement contradictoires là-dessus. Est-ce que Montréal, est-ce que le Centre Bell, ultimement, est sur un territoire Mohawk non cédé? Éric Bédard est historien, professeur à TELUC. Monsieur Bédard, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce qu'on est sur un territoire Mohawk non cédé?
Écoutez, la plupart des spécialistes nous disent que non. Trois dates. 1535... Jacques Cartier remonte le Saint-Laurent et découvre qu'il y a un village, Hochelaga, qui est situé à peu près là où est le stade de l'Université McGill actuellement. Et ce village est composé de gens qui appartiennent à la grande famille des Iroquoiens, des semi-sédentaires, pratiquent l'agriculture, un village, des maisons longues. Et Cartier nous dit qu'il y a une présence dans la vallée du Saint-Laurent de ce peuple. On arrive en 1603, donc 70 ans plus tard à peu près, Samuel de Champlain fait le même voyage et il n'y a plus personne. Ces Iroquois, Hochelaga, tous ces gens-là ont disparu. Alors pourquoi ont-ils disparu? On suppute, on nage dans les hypothèses, mais en gros, deux explications, des épidémies apportées par les Français, mais aussi des guerres entre ces Iroquois et les Autochtones qui étaient les alliés des Français, les Algonquins, les Innus, les Etchemins, etc., etc. 1642, on fonde Montréal, il n'y a toujours pas plus d'Iroquois qui sont revenus. Donc, on est sur une île qui est habitée, enfin, qui n'est pas habitée de façon sédentaire par des Autochtones, mais qui est parcourue par des Algonquins, donc par des nomades. Mais il n'y a pas de Mohawks, il n'y a pas d'Iroquois. Donc, à quoi tient cette prétention des Mohawks? Ben, ils nous disent qu'ils sont les descendants des Iroquois qu'avait rencontré Jacques Cartier en 1535. Alors, il y a deux problèmes avec cette explication. Premièrement, ce qu'on sait, c'est que, en général, les Mohawks d'aujourd'hui, ceux de Kanawake et de Kanasetake, sont les descendants d'Iroquois qui venaient du nord des États-Unis, qui appartenaient à la Grande Confédération des Iroquois et qui étaient convertis au christianisme. Donc, on les appelait les Indiens domiciliés. Donc, c'est des Jésuites, c'est les Sulpiciens qui voulaient les convertir, qui voulaient les civiliser, c'était le terme qu'on utilisait à l'époque. Mais ces deux villages-là avaient été constitués un peu artificiellement par ces congrégations religieuses. Donc, ce qu'on allègue, c'est qu'en fait, les Mohawks sont les descendants de ces gens-là, des gens qui venaient du nord des États-Unis et non pas des premiers Iroquois. Eux, ils disent non, on est vraiment les descendants, mais en fait, on ne sait pas ce que sont devenus ces Iroquois qui ont disparu. Est-ce qu'ils sont allés se réfugier chez les Janissinabés de l'Outaouais? Ils sont allés se réfugier dans le nord des États-Unis? Est-ce qu'ils ont été totalement tués, exterminés? On ne le sait pas. Les Mohawks nous disent, par la mémoire orale, on est sûr que ce sont nos ancêtres. Mais les spécialistes qui ont fait des fouilles archéologiques nous disent qu'entre les Iroquois du nord des États-Unis et ces Iroquois de l'époque de Schlaga et de Stadacone, c'était des cultures plutôt différentes, un peu comme si vous vouliez distinguer des Gallois et des Écossais, puis bon, c'était pas tout à fait la même famille, ni linguistique, ni culturelle, même s'ils appartenaient à la civilisation iroquoienne. Donc, les spécialistes sont loin de s'entendre sur ça. Les seuls qui mettent ça de l'avant, ce sont les gens, les militants, les porte-parole, mais les spécialistes sont très, très dubitatifs. Je vous donne un exemple, deux exemples. Alain Beaulieu, qui est professeur à l'UQAM, qui a étudié ça toute sa vie, lui, il soutient que c'est très mince, et même Serge Bouchard. Serge Bouchard a été interviewé avant de mourir, et on lui a posé la question, et lui aussi a dit, pas vraiment. Si on avait à dire que c'était un territoire non cédé, peut-être qu'on pourrait dire les Algonquins, mais les Mohawks, certainement pas.
Mais est-ce qu'on pourrait dire simplement, si on tient à le souligner de façon plus générale, territoire autochtone, Première Nation, sans aller dans le spécifique, puis dire, voici, ce sont les Mohawks?
Ben, évidemment, ça serait peut-être plus prudent, si on voulait absolument le souligner de faire ça, puisque là, on risque de monter les peuples autochtones les uns contre les autres, parce que les Algonquins pourraient dire, ben non, en 1642, c'est nous qui circulions sur ce territoire et non plus les Mohawks ou les Iroquoiens. Ça serait une possibilité. Mais en même temps, faut voir qu'à l'époque du régime français, il n'y avait pas ce type d'acte de cession. Hein. Ça nous vient de l'époque de la colonisation anglaise. Les Anglais avaient une vision déjà au XVIIe siècle, peut-être un petit peu plus marchande de la propriété, alors que les Français étaient dans un vieux système féodal et l'idée d'acheter ou de se voir céder un territoire, oui, on prenait parfois possession d'un territoire au nom du roi, mais à chaque fois qu'on entrait en communication en lien avec une communauté autochtone, il n'y avait pas tout de suite un traité de cession. Hein. On faisait du commerce avec eux, bon nombre étaient des nomades, donc n'avaient pas la notion de propriété du territoire. Donc, je suis pas sûr que c'est la bonne formule pour montrer une forme de générosité et d'ouverture aux Autochtones.
Je comprends, mais M. Bédard, c'est devenu la formule usuelle, je le disais tantôt, pour à chaque, je sais pas, dans les théâtres, même dans les... J'ai des gens que je connais qui sont dans des réunions Zoom, la fonction publique fédérale, et on doit commencer par ce type de déclaration avant d'amorcer la réunion.
Oui, en effet, c'est une formule qui est devenue incantatoire. Est-ce que c'est la meilleure formule pour montrer de l'ouverture et pour aller vers une forme de réconciliation? Plusieurs croient que non. Plusieurs croient que ça antagonise les gens, que, je veux dire, moi, je suis le 11e descendant de ma lignée. Mon ancêtre est arrivé en 1660. Est-ce que je suis chez moi ici? Est-ce qu'on doit acheter ces territoires? Est-ce qu'on doit négocier une cession? C'est des belles formules incantatoires, mais ça mène où politiquement? Je serais curieux d'entendre ceux qui les utilisent. Sinon, on fait juste répéter des choses sans que ça mène à rien et je pense pas que c'est la meilleure formule. Un club, une entreprise aussi profitable, aussi rentable que le club de hockey canadien, qui veut montrer de l'ouverture aux Autochtones, mais qui finance des bourses, par exemple, pour les étudiants autochtones, qu'ils prennent en charge une infrastructure d'une communauté ou de quelques communautés qui mettent de l'argent, qui nous disent qu'un match, les profits d'un seul match vont servir à aider telle ou telle ou telle communauté qui a besoin des besoins criants, notamment en eau potable. Ça serait déjà beaucoup. Est-ce que c'est vraiment en y allant d'une telle formule qui est même pas validée par les spécialistes qu'on montre qu'on aide vraiment ou si on est juste dans la bonne conscience ou dans la symbolique?
Et pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus, vous publiez cette semaine un livre là, qui porte justement en bonne partie sur ces alliances avec les Autochtones.
En fait, j'ai mon premier chapitre sur la tabagie de Tadoussac, qui est une alliance fondatrice entre les Autochtones et les Français. Et j'essaie d'expliquer pourquoi l'histoire du Québec commence par une fête, une tabagie, et non pas par un massacre.
M. Bédard, merci. Le titre du livre, c'est « Le Québec tournant d'une histoire nationale ». Alors, voilà pour ça. Et je vous le dis parce que je voyais passer les commentaires hier, puis des profs d'histoire, puis d'autres... Il disait, ben non, il n'y a pas de consensus. Et pourtant, le Centre Bell est parti dans la vague. tombés là-dedans sans arrêt. Puis on a décidé quand même de faire ça.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
On va parler de vente au détail. Bon, c'est une période importante. Il y a quelques jours, on vous parlait des difficultés d'approvisionnement, les conteneurs, le coût, la rareté. Et beaucoup d'auditeurs nous écrivent en disant « J'ai commandé tel item, on m'a promis ça pour septembre, on est rendu mi-octobre, des délais de plusieurs semaines. Puis vous regardez ce qui se passe. Prenons que l'Amérique du Nord, je regardais la semaine dernière sur les réseaux américains, où on disait aux gens « Commandez maintenant les cadeaux de Noël ou allez les acheter parce qu'on va se ramasser avec des tablettes vides. » Jean-Guy Côté est le directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Monsieur Côté, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Est-ce que c'est vrai que les approvisionnements sont difficiles puis qu'il y a certains items qui vont être plus durs à trouver?
Oui, c'est clair. Les inventaires sont bas dans plusieurs sous-secteurs de l'industrie du commerce de détail. Donc, il y a plusieurs difficultés d'approvisionnement, plusieurs chaînes qui sont un peu en transformation actuellement. Donc, oui, plusieurs de mes membres me mentionnent que les inventaires sont très bas.
Donnez-moi des exemples de ça.
Mais dans le meuble, par exemple, dans les pneus, il y a plusieurs secteurs comme ça en électronique où l'approvisionnement est difficile, le transport est difficile, obtenir le matériel est difficile. Les gens sont très créatifs, ils vont trouver des solutions, mais actuellement, c'est plus difficile que c'était il y a un an, disons.
OK. Est-ce que la demande est là, par exemple? Autrement dit, autant l'achat en magasin que l'achat en ligne, les consommateurs sont là? Ou si c'est une combinaison des deux, là, beaucoup de monde, puis finalement, peut-être pas autant de stocks?
C'est une combinaison des deux. Il y a des stocks qui sont pas là, donc il y a des stocks qui sont en retard. Donc, la règle du pot, c'est plus ça vient de loin, plus c'est difficile à obtenir. Mais il y a aussi des consommateurs qui sont revenus en force en magasin, qui sont revenus en force en ligne. Le taux de personnes qui vont dans les centres d'achat a augmenté beaucoup. Les gens nous disent qu'ils recommencent à fréquenter les commerces de détail. Donc, vous avez une combinaison des deux facteurs. Plus de difficulté de s'approvisionner, plus de monde dans les magasins. Ça fait en sorte que la demande et l'offre créent des pénuries.
Mais avez-vous l'impression que c'est temporaire ou si on risque de vivre ça encore pour une longue période de temps?
Les gens nous parlent de six mois à un an de transformation. Il faut comprendre que la chaîne de raisonnement internationale a mal prévu un peu les comportements. Ils ont ajusté en fonction de comportements qui n'étaient pas nécessairement vrais en cas de la pandémie. Donc, le matériel s'est mal déplacé. Donc, avant que ça se réajuste au niveau international, ça peut prendre quelques mois. La plupart des analystes nous disent 2022, milieu de 2022, on devrait revenir à un système qui est en équilibre. Mais pour l'instant, c'est un peu plus problématique pour les prochains mois.
Bon, quel conseil vous donnez aux auditeurs, aux auditrices? C'est la période de Noël. Là, ils se disent, OK, on commande maintenant. On n'est pas certain d'avoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait?
Comme certains ont déjà dit en politique, allez-y tôt puis allez-y souvent. Donc, veuillez, je pense que l'achat de Noël pourrait commencer dès maintenant. Fréquentez vos magasins et allez voir vos commerçants favoris parce que c'est le bon moment.
Puis achetez ce qu'ils ont finalement parce que t'as pas envie nécessairement d'attendre de commander puis de te faire dire ça va être disponible en mars ou en avril.
Ben, vous savez, si ça vient du Québec, si l'achat local est intéressant parce que les gens nous disent qu'ils ont les intentions d'acheter local, ben maintenant, c'est le bon temps de mettre cette intention-là en pratique parce qu'il y a des marchands québécois et des produits québécois qui sont disponibles parce qu'ils sont proches.
Parfait. Merci, M. Côté.
Merci à vous.
Au revoir. Jean-Guy Côté, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Pierre-Yves vous dirait sans doute peut-être réduire votre budget de dépenses. Les commerçants aussi ont besoin de vivre après des périodes plus difficiles, mais dans les faits, je voyais vos courriels ce matin, là, des gens qui commandent des meubles. Ça m'a l'air particulièrement vrai dans le secteur de l'ameublement, des délais et des délais de plusieurs mois. Puis les membres de l'équipe disaient tantôt, alors qu'on parlait de 4 à 6 semaines, on est rendu à 16 semaines d'attente, puis encore là, pas nécessairement une garantie. Et pour beaucoup de gens, là, on n'est pas dans les caprices, le luxe. Tu prévois le déménagement, tu emménages avec quelqu'un, tu as besoin de meubles. C'est sûr que c'est long.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.